Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Financia Live, l'émission qui secoue les investissements ou en tout cas qui les décrypte et qui décrypte aussi eh bien, les métiers qui sont derrière tous ces investissements, tous ces placements. Je suis ravi de présenter cette émission, non pas avec Alfonso à la place des Castro qu'on salue, mais avec Adam Assim. Comment ça va Adam ?
Ça va très bien, bonjour Fabrice.
Bonjour, je rappelle que vous êtes donc chargé d'affaires à la financière d'USES, également patron du MBA FUSAC, Fusion Acquisition. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Adam, avec notre invité que je vous laisse nous présenter.
Très bien, alors on est avec Manav Triki du cabinet Kramer Levin. Donc Manav qui est avocat counsel chez Kramer Levin sur des opérations de dette notamment.
Exactement.
Bonjour, bonjour Manav, bienvenue.
Merci beaucoup.
Bon, le principe de l'émission Manav, on vous le répète, on vous le récapitule, c'est très simple. Voilà, vous occupez aujourd'hui une position éminente, avocat d'affaires dans un grand cabinet international. Vous allez nous expliquer pourquoi. Le type d'opération que vous faites, mais derrière eh bien, votre fonction, on veut savoir un petit peu plus sur l'homme et bien sûr votre parcours, puisque ça peut éclairer ceux qui nous regardent, ceux qui sont peut-être encore sur les bancs de l'école, notamment à Financia Business School. Justement, comment ça a commencé ? Est-ce que vous rêviez tout petit d'être avocat d'affaires ?
Ah non, 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 non. C'est souvent, comme beaucoup d'étudiants, c'est quelque chose qui vient un peu sur le tard. On finit par obtenir notre diplôme au lycée, on se demande ce qu'on va faire, on n'a pas trop d'idées. Il y a des gens qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, d'autres pas forcément, j'en faisais partie.
Mais votre profil d'étudiant plutôt littéraire, plutôt
littéraire.
Bon partout
ouais. Littéraire, exactement.
Okay.
Littéraire. Et puis voilà, et puis un jour je me suis dit, à défaut d'avoir un choix très précis, je vais aller faire la fac de droit. Probablement pour essayer de réfléchir aussi à ce que j'allais faire un peu plus tard, c'était un peu une sorte de période de transition pour vraiment réfléchir à ce que j'allais faire. Et finalement, je m'y suis plus.
Parce que c'est assez particulier quand même le droit, tous ces arrêts, tout ça. Et après il faut choisir sa branche puisqu'il y a pas qu'un droit, il y a plusieurs droits, il y a plusieurs métiers, il y a même des dizaines de métiers. Pourquoi vous avez choisi de spécialiser dans justement la finance ou du moins le droit des affaires ?
En fait, vous êtes un peu préparé quand vous commencez le droit, vous avez un peu un sort de tronc commun. Vous étudiez plus ou moins un peu tout, c'est-à-dire toutes les matières de base qui font de vous un juriste. Et puis ensuite, vous commencez à vous spécialiser de plus en plus. Et même la spécialisation passe par des étapes, c'est-à-dire quand vous choisissez d'abord d'être dans le droit privé plutôt que le droit public, puis ensuite vous commencez à choisir d'aller plutôt dans le droit des affaires, et puis dans le droit des affaires, vous avez un panel qui est très très large, et vous finissez par choisir une branche spécifique en droit des affaires. Enfin, en l'occurrence, pour moi, ça a été un peu un concours de circonstances, parce que je me dirigeais au début vers le corporate fusion-acquisition, et j'ai commencé ma première expérience en 2008, donc exactement au moment où la bulle financière avait éclaté. Et que
c'était pas mal de trouver déjà en cette époque-là.
Ouais, alors j'étais en stage, je rectifie, j'étais en stage dans le cadre de l'école d'avocats et j'avais constaté qu'effectivement tous les gens qui faisaient le corporate M&A à l'époque n'avaient pas forcément assez de travail à traiter et puis il y avait même pas mal de plans sociaux dans pas mal de cabinets. Et c'est là que j'avais constaté que les gens qui étaient en banque finance étaient des gens qui travaillaient beaucoup et qui travaillaient soit lorsque les choses vont très bien ou les choses vont pas bien. Et c'est là que j'ai eu l'idée de commencer à me orienter un peu vers cette branche-là. Donc j'avais fait, je me rappelle, un stage en banque, et puis ensuite j'ai fait un autre master 2 en droit bancaire et financier, et c'est comme ça que j'ai choisi un petit peu ma branche.
Alors vous avez commencé à Bordeaux, votre droit, à l'université de Bordeaux, et ensuite vous êtes monté à Paris pour aller à Assas, pour vous perfectionner et pour avoir ce fameux master.
Disons que lorsque vous tenez vos diplômes de droit à Bordeaux, si vous voulez aller travailler dans les cabinets à Bordeaux, vous avez des cabinets qui vont plutôt être des avocats de droit des affaires un peu généralistes ou parfois spécialistes. Mais lorsque vous visez les marchés de capitaux, lorsque vous visez des opérations financières un peu complexes, elles sont souvent traitées à Paris. Et donc, c'était un peu le passage obligatoire. J'aurais préféré rester à Bordeaux. C'est une ville que j'apprécie beaucoup. Néanmoins, je pense que pour les objectifs que j'avais, d'un point de vue professionnel, c'était à Paris qu'il fallait que je sois.
Une petite question en aparté. Tiens, justement, pour faire ce métier, il faut forcément rester à Paris ou est-ce qu'il y a du boulot en province ou dans les grandes métropoles d'équilibre ?
La plupart des sociétés cotées sont à Paris. La plupart des sièges des grandes banques qui sont décisionnaires sur un certain nombre d'opérations, elles sont également à Paris. Mais c'est vrai que depuis le Covid, il y a eu une sorte de de redistribution des cartes et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont délocalisées pour aller en province, où il y a énormément de personnes qui simplement vont aller s'installer en province pour continuer à travailler pour leur entreprise qui est à Paris, soit en télétravail, soit simplement qui ont créé leur propre entité pour faire la même chose que ce qu'ils faisaient à Paris, mais en extérieur de Paris. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les choses sont un peu différentes par rapport à ce qu'elles étaient.
Et comment ça s'est passé ensuite, la suite, vous avez continué à faire des stages ou des stages professionnels, hein, pour le coup, parce que je pense que là, ce n'est pas le stage photocopieuse café, hein, c'est, on est les mains dans le cambouis, on travaille pratiquement autant que les seniors.
Oui, enfin, on passe tous par des stages où on ne fait pas grand-chose, parce qu'en fait, plus vous avancez dans vos études, plus forcément on vous demande plus de choses. Donc après vous avez des stages en fonction de votre niveau d'études. Lorsque vous arrivez à la phase où vous êtes en master 2 ou a fortiori lorsque vous passez l'examen du barreau, nécessairement là les tâches qu'on va vous donner sont différentes. Votre niveau de compétence n'est pas le même que celui que vous aviez auparavant, donc vous êtes déjà en mesure de pouvoir traiter des choses que vous n'étiez pas en mesure de traiter lorsque vous aviez un niveau d'études qui n'était pas forcément très, très poussé. Et puis effectivement, vous travaillez énormément, vous avez les mêmes horaires que ceux des collaborateurs, surtout lorsque vous travaillez dans des cabinets d'affaires internationaux. Vous avez vraiment parfois un même degré d'exigence que celui qu'on attend de collaborateurs juniors. Et quelque part, vous faites votre stage, c'est-à-dire que plus vous montrez que vous avez de l'appétit, plus vous montrez que vous êtes rigoureux, plus vous montrez que vous êtes présent, que vous n'avez pas de problème à rester tard le soir ou à même venir travailler le week-end lorsque c'est nécessaire, plus les avocats vous font confiance et vous donnent de plus en plus de travail ou de plus en plus de responsabilités dans le cadre de certaines opérations.
Il faut prouver finalement sa valeur, qu'on est dur au mal quelque part, en tout cas on ne compte pas ses heures. Et ça, dès le plus jeune âge. Alors, vous continuez votre parcours, hein, puisque vous avez fait BNP Paribas, Société Générale, c'était peut-être des stages, mais ensuite, vous rentrez chez Herbert Smith Freehills pour faire déjà Corporate Finance, Project Finance et plusieurs dossiers, notamment dans le pétrole et gaz, les infrastructures ou encore les énergies renouvelables.
Oui, alors j'ai eu un parcours qui m'a fait passer par différentes spécialisations. Mm-hmm. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes premières formations, j'étais plutôt purement marché de capitaux. Mais encore une fois, c'était pendant l'après-crise. Donc ce qui fait que c'était un domaine qui n'était pas forcément aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Les taux d'intérêt n'étaient pas aussi bas. Donc lorsque j'ai voulu commencer, j'ai voulu choisir une branche un peu plus générale qui me permettait de pouvoir traiter beaucoup plus d'opérations dans le spectre de la finance. Et donc, j'avais commencé par du financement de projet, qui était un peu par accident, mais en fait, j'ai travaillé avec un associé dans ce cabinet qui s'appelle Jacques-Bertrand de Balanda, qui était probablement mon premier mentor et avec qui j'ai énormément apprécié travailler. Et donc, j'ai fait beaucoup de financement de projet. Et puis ensuite, suite au départ de cet associé-là, c'est là que j'ai commencé un peu à travailler sur des opérations de financement, que ce soit par le marché ou des opérations de financement bancaire, sous format de LBO, de format de financement d'acquisition, de financement d'actifs, etc.
D'accord. Et jusqu'à cette dernière expérience, chez Cramer, Levy, Naftalis et Frankel, on dit tout en entier, une société américaine sur plusieurs continents. Donc vous êtes dans le bureau parisien, une soixantaine de personnes. Ils sont également dans la Silicon Valley.
Exactement. Enfin, c'est un cabinet américain qui est installé à Paris depuis 1968. C'est un cabinet qui n'a que 3 bureaux dans le monde, donc on n'est pas présent sur tous les continents. On a un bureau à New York qui est le bureau principal, qui compte à peu près 400 personnes. On a un bureau à la Silicon Valley et le bureau parisien qui compte à peu près 65 avocats, dont 27 associés.
Mmh. Du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pratiquement ça, alors, je ne sais pas s'il y a une journée type pour Manaf, mais de quoi vous occupez comme opération aujourd'hui?
Comme j'avais expliqué, comme je suis passé par des cabinets où j'ai fait de la finance de corporate finance, c'est-à-dire dans le sens où financement bancaire, LBO, financement d'acquisition, donc vraiment du crédit qui est octroyé par des banques, par des établissements de crédit. J'ai également rejoint un associé qui a monté un département marché de capitaux dans un autre cabinet, donc ce qui fait que j'ai également une expérience en matière de marché de capitaux. Et donc aujourd'hui, chez Cramer Levin, donc je suis en charge des opérations de financement à la fois par le marché, c'est-à-dire toutes les émissions obligataires, Eurobond, EuroPP, Euro Private Placement, pour lequel on est un des cabinets fondateurs de la charte et rédacteur de la documentation de place. On fait également donc, toutes les opérations d'obligations vertes, d'obligations sociales, environnementales.
Les fameux green bonds dont on parle beaucoup en ce moment.
Les green bonds, exactement. On fait des opérations de liability management, des opérations d'obligations donnant accès au capital, etc. Et de l'autre côté, donc on continue encore de faire des opérations de financement bancaire, comme décrit un peu avant. On fait aussi des opérations de financement charia compliant, donc dit financement islamique. On est un des rares cabinets qui font ce type d'opérations. Et puis accessoirement, on fait aussi des opérations qui touchent à la blockchain et aux actifs numériques.
Adam, vous voulez intervenir quand vous entendez ce parcours, hein, c'est pas mal, hein, déjà.
C'est un très beau parcours, très varié, qui touche tant le financement de haut bilan à travers les financements en capitaux notamment, mais également en dette. Et puis la blockchain de manière plus large, hein, parce que dans la blockchain, on a différents types d'actifs, notamment des utility tokens, donc des tokens qui donnent des droits d'usage, hein, qui peuvent plus s'assimiler à des titres financiers, on va dire, de manière plus large, des titres. Et alors moi j'ai une question par exemple sur la partie obligation, Manaf. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais là, où est-ce que tu interviens en tant que conseil sur par exemple un EuroPP ou une émission obligataire de manière plus large?
Oui, tout à fait. Alors, quand vous avez une opération d'émission obligataire qui se dessine, vous avez en premier lieu un term sheet qui vous est transmis par les investisseurs, qui décrit les étapes et les différentes caractéristiques de l'opération. Sur la base de ce term sheet qui va faire l'objet de négociations entre la société émettrice et les financeurs pour pouvoir arriver à une version agréée entre l'ensemble des parties. Sur cette base, on va commencer à rédiger la documentation. Donc, généralement, la documentation va changer en fonction de si l'opération est une opération d'émission obligataire cotée ou non cotée, si elle est assortie ou non de sûreté, etc. Donc vous rédigez le contrat de souscription ou le contrat de placement des obligations. Vous rédigez les termes et conditions des obligations, qui vont prévoir toutes les caractéristiques des obligations, quelle est leur date d'émission, leur date de maturité, les taux d'intérêt applicables, quelles sont les différentes conditions de remboursement anticipées ou à terme, quels sont les différents engagements qui sont pris par l'émetteur, les différents cas de défaut, quels sont les éléments qui vont faire que l'émetteur devra rembourser par anticipation de manière obligatoire l'ensemble des obligations si jamais il ne respecte pas un certain nombre d'obligations, l'ensemble des covenants financiers, donc qui sont des ratios qui doivent être respectés le cas échéant par l'émetteur. Donc voilà, donc une fois que vous discutez de ces éléments-là avec les contreparties, que vous arrivez à une version agréée, donc à ce moment-là, vous commencez à organiser l'ensemble de la documentation annexe qui est celle qui permet de pouvoir passer au closing de l'opération.
Et puis ensuite, là, on est déjà à 200 pages. Hein.
Ça dépend des opérations. Il y a des opérations qui peuvent faire bien plus que 200 pages. Il y en a d'autres qui peuvent vraiment tenir sur une dizaine de pages. C'est vraiment en fonction de ce qui figurera dans le term sheet, en fonction des accords des parties, si l'émetteur présente un risque pour les investisseurs ou pas, quel type de risque.
On a l'habitude de dire que finalement, ces contrats, ils servent quand ça se passe mal. Donc c'est là où il faut faire attention aux petites lignes et c'est là où peut-être qu'on va aller vous chercher ou on va aller vérifier que tout a été bien fait. Est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'il y ait des opérations ou des émetteurs qui puissent pas honorer leurs engagements et du coup que vous soyez rappelé ou à ce moment-là appelé à ce qu'on regarde bien le document que vous avez émis? Ça doit arriver.
Ça arrive tout le temps et ça arrive encore plus depuis les deux dernières années avec le Covid et les difficultés financières qu'ont rencontré beaucoup de sociétés.
Ouais. Ça se passe comment à ce moment-là? Vous êtes mis en cause en particulier, enfin le cabinet, vous devez vous défendre aussi ou...
Non, alors ça dépend. Si on parle de les choses vont mal parce que le cabinet ou l'avocat a mal rédigé la documentation, ou est-ce que ça va mal parce qu'il y a eu un non-respect de la part d'une des parties de ses obligations au titre du contrat. Quand c'est l'avocat qui a mal fait son travail, bon là, c'est une question de responsabilité qui pourra être engagée le cas échéant. Mais là, ce que j'évoquais de manière plus précise, c'est vraiment les cas où typiquement l'émetteur n'est pas en mesure de payer, par exemple, son coupon. Il n'est pas en mesure de rembourser à terme ses obligations ou son financement de manière générale. Et puis ensuite, dans ce cas-là, on essaie toujours de trouver des solutions avec les financeurs en demandant des waivers, en signant des avenants au contrat pour pouvoir un peu contourner le problème ou essayer de le régler autrement, etc.
Bon, vous êtes bien sur Radio Patrimoine. Normalement, on parle français, mais là, on est obligé, term sheet, waiver, d'utiliser des termes anglo-saxons. C'est vrai qu'on baigne dedans et c'est pratiquement devenu du domaine courant. Tiens, justement, une question d'actualité. Vous avez évoqué la crise sanitaire. C'est vrai que ça a été un coup d'arrêt de l'économie. Pour vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu finalement un coup d'arrêt également ou bien un afflux? Parce que quand on voit aujourd'hui le dynamisme de la reprise, les fusions-acquisitions qui s'enchaînent à un rythme effréné, c'est ce qui propulse aussi la bourse vers de nouveaux records. Pour vous, comment ça se passe au niveau du cabinet?
C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'activité banque-finance, c'était parce que j'avais vu que les gens dans les départements banque-finance travaillaient, que ce soit que l'activité soit attendue ou pas, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et
oui.
En l'occurrence, lorsqu'il y a eu la crise, que beaucoup de sociétés se sont retrouvées en difficulté, alors on a peut-être moins d'opérations, moins de lancements d'opérations de financement au sens classique du terme. Néanmoins, après, il y a eu aussi tous les financements PGE qui ont été mis en place pour lesquels on était sollicité pour justement soit assister les emprunteurs, soit assister les banques prêteuses dans le cadre de la mise en place de ces documentations-là. Dans la mesure où il y avait beaucoup d'emprunteurs qui avaient des difficultés financières, qui n'étaient pas forcément en mesure de respecter un certain nombre d'engagements qui figuraient dans leur documentation, donc il fallait essayer de préparer des lettres de renonciation des banques à déclarer des cas de défaut du fait de ce non-respect-là. Donc il y a toujours des choses à faire qui permettent d'avoir une activité assez tendue, même pendant les périodes où les choses vont mal d'un point de vue économique.
Adam, vous qui êtes le patron du MBA FUSAC, comme fusion-acquisition, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les étudiants quand ils voient ça, il y a toujours un engouement. Peut-être vous avez aussi des juristes qui poursuivent ce MBA.
Oui, tout à fait. Donc on a un petit peu tous les profils, mais beaucoup de gens qui s'intéressent au volet financement, mais il y a également des gens qui s'intéressent à l'optimisation de trésorerie ou plus simplement à l'analyse financière. Mais en tout cas, sur la partie financement, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur comment optimiser la levée de fonds pour une société, quel est le financement le plus adéquat en haut de bilan, en bas de bilan, est-ce qu'on va faire du sur-mesure ou non à travers une obligation, est-ce qu'on va donner un droit au capital. Et d'ailleurs, ça m'amène vers une question, Manaf. Quel est le profil de vos clients?
Le profil de nos clients, ouais. Ça peut être des sociétés industrielles ou commerciales, ça peut être des entités publiques, ça peut être... c'est également de l'autre côté de la barrière, donc ce serait plutôt les financeurs, des établissements de crédit, des fonds d'investissement, des family office, etc. Donc c'est plutôt assez général, enfin, tout ce qui peut emprunter, tout ce qui peut prêter.
D'accord, ok. Et en termes de taille peut-être, de chiffre d'affaires qui est réalisé, enfin, en tout cas sur les émissions d'obligations par exemple à traiter, en termes de taille de levée de fonds, ça représente combien à peu près sur un écart type hein?
On est sur le segment un peu small mid cap. Après, les montants, ça peut varier. Parfois, on peut avoir des opérations de sociétés qui veulent lever 1 million, comme on peut avoir des opérations où on lève plusieurs milliards. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Après, la documentation ne sera pas la même pour les uns comme pour les autres. Ça dépend si on est sur des opérations, si on parle pas d'émissions obligataires, est-ce qu'on est sur des émissions obligataires cotées, donc qui vont avoir leurs propres critères standards, leurs propres documentations standards, ou on est sur des opérations non cotées qui souvent vont être assorties de sûreté. Il y a le package de sûreté qui va être plus ou moins gros en fonction du profil de risque, etc.
Ok.
Une question pour les auditeurs, en particulier Financière Business School, qui nous écoutent et qui se disent bah, « Tiens, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous leur conseillerez justement à ces étudiants, que ce soit MBA, donc un peu plus chevronné, ou encore sur les bancs de la fac de droit, voilà, les plus, les moins de cette profession ?»
Bon, pour ceux qui sont sur les bancs de la fac de droit, je pense que je leur apprendrai rien de plus. Hein. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est toujours les mêmes exigences qui deviennent de plus en plus compliquées à respecter. C'est-à-dire qu'il faut parler des langues, principalement l'anglais, parce qu'aujourd'hui, on va dire une opération sur deux va être traitée en anglais, négociée en anglais. Donc les langues, c'est très important. Donc souvent, ce qu'on attend des étudiants en droit, c'est de faire des LLM dans des universités anglo-saxonnes pour pouvoir justement accéder aux cabinets d'avocats internationaux.
Alors, vous parlez combien de langues?
J'en parle trois, en tout cas.
Vraiment, donc français, anglais?
Français, anglais, arabe.
Ouais, ça peut aider quand on fait finance islamique, effectivement.
Exactement.
Mais enfin, écrit aussi?
Quoi que c'est en anglais, de toute
façon. Ouais, tout est en anglais, au
exactement.
Final. D'accord.
Exactement. Après, il y a des notions, etc. Mais bon, en l'occurrence, la
langue. Donc français, anglais obligatoire, notamment si on veut travailler dans ces grands cabinets. La langue, d'ailleurs, au jour le jour, c'est l'anglais avec vos collaborateurs?
Tout dépend. Parfois, dans beaucoup de cabinets, vous avez aussi des avocats qui sont anglais ou qui sont américains, etc. Et puis, vous avez parfois une sorte d'esprit de département. C'est lorsque vous avez, par exemple, plusieurs personnes qui sont anglaises, bah, généralement, les gens communiquent entre eux en anglais.
D'accord, donc anglais obligatoire, hein, et puis pas le, celui où on baragouine.
Oui, voilà, mettre... là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très important, parce que ce n'est pas simplement pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir discuter dans les locaux, c'est vraiment parce que vous allez rédiger en anglais, donc il faut vraiment avoir une certaine maîtrise des termes juridiques.
Et faire face aux clients aussi.
Faire face aux clients, il faut négocier avec les clients, etc. Donc c'est pour ça que, généralement, on conseille de faire des LLM. Après, il y a d'autres façons. Les LLM, tout le monde sait que c'est coûteux, ça prend du temps, donc il faut pas apprendre autrement. Et la deuxième chose... qui pour moi est presque plus important, c'est vraiment d'avoir une vraie formation financière. Mmh. En tout cas, lorsqu'on se dirige vers tout ce qui est département banque-finance ou M&A, des choses comme ça, il faut avoir des bonnes bases en analyse financière. Et donc c'est pour moi, à titre personnel, je préférerais un candidat, par exemple, qui va avoir un parcours école de commerce que celui qui va avoir un LLM.
D'accord, ok. Intéressant. Bon, ensuite, dans les inconvénients, c'est un inconvénient, grosse capacité de travail, évidemment. Oui. Pas avoir peur de, faut pas compter ses heures, comme
oui,
on le disait tout
exactement,
à l'heure.
Exactement. C'est beaucoup d'heures de travail. Donc après, bon, en fonction des branches d'activité, ça peut varier. Mmh. Mais de manière générale, c'est tout de même beaucoup d'heures de travail. Les premières années, les collaborateurs peuvent avoir l'impression que le travail n'est pas forcément assez intéressant. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et plus le temps passe, plus on acquiert de la confiance en soi, plus on acquiert aussi de la compétence.
Bien sûr.
Et plus le travail devient intéressant. Parce que plus le temps passera et plus vous allez commencer à vous fournir un travail plus intéressant, des contrats plus intéressants à faire. Et puis le jour où vous avez une maîtrise de l'ensemble des paramètres et de l'ensemble des étapes d'une opération, là vous commencez vraiment à vous amuser parce que vous commencez vraiment à négocier, vous commencez vous-même à apporter des solutions nouvelles. Et c'est là que le travail devient intéressant.
C'est intéressant, vous vous amusez aujourd'hui, Manav Friki?
Je m'amuse aujourd'hui, alors pas forcément tous les jours.
Tous les jours, voilà.
Je pense que dans n'importe quel métier, c'est la même chose. Mais effectivement, il y a des moments où je m'amuse vraiment.
Ben voilà. Et en plus, c'est vrai que la finance n'en finit pas d'évoluer et d'innover. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Voilà, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, un bel exemple. Merci en tout cas d'être passé par notre plateau.
Donc, merci de m'avoir accueilli.
Avocat à la Cour et au cabinet Kramer-Levin. Merci Adam Hassim, chargé d'affaires financières d'UZES et patron du MBA Fusac à Financière Business School. Ce numéro de Financière Live se termine, mais on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro.
Financière Live, une émission proposée par Financière Business School, à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.